Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, que reste-t-il de la gauche en Israël ? La dernière élection a confirmé sa marginalisation politique face à la droite et l'extrême droite. Dans son livre « L'échec d'une utopie », l'historien Thomas Vescovi nous propose une plongée dans l'histoire des gauches israéliennes depuis la fin du XIXe siècle, mais aussi de découvrir les vicissitudes d'un mouvement politique qui était hégémonique à la naissance de l'État en 1948. Un entretien que vous pourrez retrouver sur notre site www.rfi.fr. Vous pouvez également vous abonner à notre application Pure Radio pour l'écouter en podcast. Bonjour Thomas Vescovi.
Bonjour Éric Bataillon.
Chercheur indépendant en histoire contemporaine, vous vous êtes donc intéressé à l'histoire de la gauche en Israël, ou plutôt des gauches, nous y reviendrons. Mais d'abord, une première question d'actualité, cela s'impose. Que vous inspire le résultat de la quatrième élection législative du 23 mars ?
La situation paraît plus que jamais bloquée, puisque vous avez d'un côté un bloc Netanyahou, autour de 52 députés. Je rappelle qu'il en faut 61 pour former une coalition gouvernementale. Et en face, vous avez un bloc anti-Netanyahou, qui paraît être majoritaire, mais qui est très hétéroclite. Et c'est la quatrième fois en réalité qu'il est majoritaire, mais qu'il ne parvient pas à se mettre d'accord sur un Premier ministre consensuel et capable de rassembler tout le monde. Donc pour l'instant, c'est bloqué. De plus en plus, on parle de cinquième élection, mais à l'heure où l'on parle, il y a surtout beaucoup de tractations. Il y a énormément de rencontres qui sont faites depuis maintenant le 23 mars en Israël entre les différents partis pour essayer de trouver la conjugaison la plus logique et la plus fiable. Mais il faut quand même pas oublier que ce prochain gouvernement en Israël va avoir, à mon sens, deux grands points à affronter. Le premier, c'est la catastrophe sociale qui est liée au triple confinement qu'a connu Israël avec la crise Covid, et surtout la question d'un changement diplomatique à la Maison-Blanche. Là, encore une fois, que ce soit Netanyahou ou un anti-Netanyahou, il faudra affronter une Maison-Blanche, enfin affronter, il faudra faire face à une Maison-Blanche qui sera évidemment beaucoup moins consensuelle. C'est-à-dire que là, Joe Biden a donné quelques signes, notamment le fait que les colonies redevenaient illégales du point de vue de la diplomatie américaine. Il y a également une volonté de renouer un espace de négociation avec l'Iran. Et face à ça, on peut évidemment soupçonner que le prochain gouvernement israélien devra avoir une ligne à peu près claire et crédible. Ce qui malheureusement n'est pas le cas pour l'instant des anti-Netanyahou qui sont opposés sur beaucoup de points diplomatiquement et aussi au niveau de la manière de résoudre cette catastrophe sociale en Israël.
Justement, parlons de la gauche actuelle. Le parti travailliste 6%, un peu plus, à 6,09. Le parti Meretz, moins de 5%. La gauche est-elle laminée ?
Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il y a eu des fêtes presque qui ont eu lieu dans les camps de campagne des travaillistes et du Meretz. Le travailliste ont eu 7 députés, le Meretz en a eu 6. Pourtant, c'est les scores parmi les plus faibles de leur histoire. Alors, pas pour le Meretz, qui est le parti, disons, radical de la gauche sioniste, qui est habitué maintenant, depuis presque 30 ans, à avoir des scores à peu près dans ces eaux-là, entre 5 et 8 députés. En revanche, les travaillistes, en décembre dernier, étaient annoncés comme ne parvenant pas à franchir le seuil électoral, à 3,25%, pour rentrer à la Knesset. Là, à présent, ils sont à 7 députés, et il y a une vraie dynamique autour de leur nouvel chef, Merav Mikhaeli, qui a réussi à donner une nouvelle dynamique. Pour les auditeurs peut-être qui ne la connaissent pas, cette dame, il y a un an de ça, en mars 2020, elle avait refusé de suivre la direction de son parti, qui avait voté pour l'entrée des travaillistes dans le gouvernement d'Union nationale. Elle avait considéré qu'elle ne siégerait pas avec Netanyahou, elle avait donc rompu, elle avait rejoint les manifestations anti-Netanyahou. Donc à l'époque, on pensait qu'elle était dans une espèce de phase isolée de son parti, et en fait, rapidement, on lui a donné raison, au point qu'elle a obtenu la tête du parti en janvier dernier, et elle a vraiment engagé, je ne veux pas dire une révolution, mais un renouveau autour notamment de la question des droits des femmes, du féminisme. C'est une grande figure féministe en Israël. Elle a par exemple obtenu beaucoup de soutien, même de religieuses, c'est assez intéressant, qui considéraient que le triple confinement qu'a connu Israël a tellement mis les femmes israéliennes dans des situations compliquées avec les violences conjugales, la paupérisation des sociétés qui touchent souvent, et en Israël aussi, les femmes en priorité, que du coup Merav Mikhaeli a vraiment réussi à dynamiser ça. Il y a pas encore de chiffres officiels qui sortent, mais on sait qu'elle a obtenu beaucoup beaucoup de voix de femmes. Il y a eu à peu près 200 000 votes supplémentaires pour le Parti travailliste entre mars 2020 et mars 2021. Donc on peut penser que cette gauche sioniste est en passe, disons, d'avoir une nouvelle dynamique. Sauf que mon constat, c'est plutôt que c'est tout de même assez inquiétant, parce qu'on est très loin de l'hégémonie travailliste des années 90, voire même de l'époque où Israël a été créé, parce que c'est quand même le parti qui a créé en partie Israël. mais il y a en tout cas pour les militants sionistes travaillistes des raisons d'espérer.
Et pour eux, espérer, mais peut-être des difficultés quand même à former un prochain gouvernement, notamment avec des éléments beaucoup plus droitiers. C'est peut-être difficile de concevoir un gouvernement commun.
Exactement. Vous avez, sur différentes questions, il y a une synergie ou un consensus. Je prends par exemple la question des colonies, ça peut paraître aberrant, mais le Parti travailliste, aujourd'hui, ne s'oppose plus frontalement à la colonisation. Il considère que certaines colonies doivent être interdites, notamment les nouvelles constructions, mais qu'en revanche, les blocs de colonies autour de Jérusalem et Bethléem font entre guillemets partie du paysage israélien et que construire dans ces blocs-là n'est pas illégal, n'est pas interdit. Donc là, par rapport à la droite israélienne, voire même l'extrême droite, on peut avoir des convergences. En revanche, vous prenez une question comme celle qui est économique, Bennett ou Gideon Saar, qui sont les deux candidats un petit peu challengers de la droite, considèrent qu'il faut profiter de la situation économique actuelle en Israël, donc cette espèce de ralentissement complet. Il y a eu 1 million de licenciements il y a un an, en mars 2020. Vous avez beaucoup de personnes qui sont paupérisées. Profiter de cette situation pour faire, je cite, un électrochoc libéral. Les travaillistes, eux, sont sur une dynamique de vouloir redonner à l'État israélien les moyens d'être protecteurs. Il y a l'idée de faire d'Israël une maison pour tous de nouveau, avec notamment l'allongement du congé parental, revalorisation des pensions, donner de nouveaux droits aux salariés, notamment les femmes dans les entreprises. Donc là, on a vraiment deux visions qui sont opposées. Et malheureusement, c'est ce que j'expliquais juste avant, pour réussir à faire face à cette crise sociale et économique en Israël, il faudra un gouvernement qui sera clairement crédible au niveau de la population et qui aura une ligne claire. Et là, en l'occurrence, ça ne me paraît pas être le cas.
Alors, dès l'entame de votre livre, Thomas Vescovi, vous présentez deux schémas, deux demi-camemberts, hein, avec la situation à la Knesset en 1949, donc première Knesset, premier parlement israélien, et puis maintenant l'avant-dernière, en 2020, on pourrait même mettre celle de cette année, 2021, il y a quelques jours. Et quel enseignement on a concernant la gauche?
Son enseignement, c'est d'abord qu'elle a une influence qui a diminué sur la société israélienne. On a surtout des dynamiques qui sont de plus en plus puissantes. Vous prenez par exemple les religieux, les nationalistes religieux ont une hégémonie de plus en plus importante. Quelqu'un comme Netanyahou contrôle complètement le jeu politique. Et quand on reprend l'histoire d'Israël, on se rend compte qu'il y a eu une hégémonie travailliste, donc de la gauche sioniste, de 48 jusqu'aux années 70. 70, on a le premier basculement avec la victoire de la droite en 77 aux élections. Et puis après, vous allez avoir une espèce d'alternance, avec chaque élection, une modification, droite, gauche. Et puis depuis environ 2000, on a tout de même une droitisation qui n'arrête pas de s'accélérer avec des personnes comme Sharon et maintenant Netanyahou, qui accentuent, si vous voulez, cette espèce d'hégémonie. Et au contraire, ils obligent les sionistes de gauche à se recentrer vers le milieu du jeu politique. Par exemple, lors des derniers scrutins, vous avez les travaillistes et le Meretz qui ont passer alliance avec des partis plus centristes en espérant gagner des électeurs, parce qu'ils savent bien que dans leur précaré de gauche sioniste, ça a l'air de plus prendre en tout cas. Il y a un constat qui est clair, la société israélienne, juive et de gauche paraît minoritaire. Vous avez une étude qui est parue il y a un an de l'Israel Democracy Institute qui montre que 69% des jeunes israéliens qui ont moins de 30 ans se considèrent comme de droite. 69%, c'est énorme. Et eux, ils considèrent en fait dans cette étude-là que ce qui compte aujourd'hui en premier, c'est la question des valeurs. Les sionistes de gauche continuent à mobiliser parfois un discours qui peut être, je dirais pas socialiste, mais socialisant. L'État protecteur, la laïcité. Et puis il y a aussi beaucoup de mépris envers parfois les groupes religieux, les groupes paupérisés et religieux. Et donc, à l'inverse, ils n'arrivent pas à être audibles auprès de cette population-là, qui représente pourtant la majorité d'Israël. Donc on a par exemple, sur une carte électorale, une ville comme Tel Aviv, qui va être un espèce de fief électoral de la gauche sioniste, mais en fait c'est une bulle, parce que le reste du pays est soit paupérisé et vote davantage pour des partis aux valeurs religieuses, soit plutôt des quartiers qui sont eux clairement religieux et qui n'ont aucun intérêt à voter pour un parti laïque.
Orient Hebdo sur RFI.
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI et nous sommes en compagnie de l'historien Thomas Vescovi pour son livre « L'échec d'une utopie » publié aux éditions de La Découverte. Est-ce que le kibboutz représente l'idéal de gauche?
Ça, c'était sûrement la partie la plus intéressante de mon travail, honnêtement, puisque lors de mes premiers séjours en Israël, j'avais vraiment cette vision-là. C'est-à-dire que le sionisme de gauche, je le voyais déjà comme une idéologie qui s'était, entre guillemets, pervertie avec la politique et tout ce que ça pouvait influencer, mais que le kibboutz pouvait être, entre guillemets, préservé. Quand on regarde les études qui ont été faites, on se rend compte de plusieurs choses. D'abord, le kibboutz, son premier intérêt, c'était de permettre l'intégration des gens. Ça veut dire que quand vous arriviez en Palestine, une terre que vous ne connaissiez pas, le kibboutz permettait de créer une union, une unité entre des personnes autour de valeurs. Travail, mais aussi des valeurs de défense militaire. Si bien que quand les premières tensions vont avoir lieu avec la population palestinienne, arabe de la région, c'est souvent les gens des kibboutz qui vont être en première ligne. Maintenant, dans les kibboutz, il y a vraiment cette idée de revenir à la terre. C'est ce que j'expliquais juste avant. Cette idée de faire des juifs, non pas des gens qui sont écartent la société, marginalisés, mais au contraire des gens qui sont aux avant-postes, qui travaillent la terre et qui ont une connaissance à la fois de travailleurs et de militaires. Maintenant, il faut pas oublier qu'il y a aussi une réalité. La réalité, c'est que les kibboutz étaient installés dans des zones hostiles, afin de contrôler le territoire, premièrement. La deuxième chose importante, c'est de considérer que même dans les kibboutz qui ont été les plus marxistes, et vraiment les plus à gauche qui ont pu exister, la question palestinienne a toujours été très sensible. Par exemple, vous n'avez aucun kibboutz qui a essayé de créer une société qui pouvait être mixte. On partait du principe qu'en fait, non, le kibboutz était d'abord un idéal juif. Et c'est ça, à mon avis, le sujet central de cette question, et qui fait que le kibboutz est un symbole d'agochoniste pour ça. On est de gauche, on est socialiste, il y a une idée là-dedans, mais par contre, dès qu'on arrive sur une question de mixité ethnique, si je peux dire, il y a un blocage.
Justement, est-ce qu'il y a un dilemme pour la gauche locale entre la lutte des classes, d'un côté, et la solidarité communautaire?
Ah, mais ça a traversé en fait l'histoire des gauches en Israël. Dès les années 1910-1920, en Palestine, vous avez, au sein de ces populations qui croient sincèrement dans l'idéal sioniste de gauche, en arrivant en Palestine, ils comprennent bien qu'il y a un problème, il y a une population qui est là, il faut en tenir compte. Certes, c'est une population qui n'est pas empreinte des idées marxistes, socialistes, mais qui est bien présente, c'est leur terre, elle est à eux. Et donc, il y a des débats qui ont lieu très vifs au sein des syndicats, des groupes militants. Est-ce qu'on crée une organisation sur des bases sociales ou sur des bases communautaires? Et on va se rendre compte que, progressivement, les sionistes de gauche, ou du moins ceux qui vont former le sionisme de gauche, considèrent eux que la mixité ethnique, entre guillemets, c'est bien beau, mais que ce qui compte avant tout, c'est de créer cet État. Parce qu'il y a une urgence de se libérer de l'antisémitisme. Et que pour ça, ce qui compte avant tout, c'est que les Juifs soient autonomes et n'aient pas à compter sur d'autres peuples.
Et est-ce que l'année 1967 et l'occupation des territoires palestiniens seraient un tournant politique pour la gauche israélienne?
C'est un tournant parce que Israël, en 1948, se veut une démocratie. Du moins, c'est un État qui comprend bien que son allié principal, qu'est l'Occident ou même la question de l'URSS, fait que ça doit être forcément un État sur des bases démocratiques et libérales. On ne peut pas faire autrement, on veut être dans ce camp-là. Mais en créant l'État suite à une guerre, et surtout par l'expropriation de 800 000 personnes, vous avez créé une injustice. Dès lors, l'État d'Israël est dans un dilemme entre être démocratique, mais donner suffisamment de place à l'armée pour être protégé. Et ça, c'est encore aujourd'hui, on le voit dans plusieurs questions autour de Netanyahou, un vrai paradoxe en Israël. C'est une démocratie, mais où l'armée a un poids qui dépasse ce qu'on peut imaginer. Entre 48 et 67, je dirais pas que ça fonctionne plutôt bien, mais ce paradoxe d'État juif en même temps démocratique semble du moins plutôt bien marcher, avec quand même une limite, c'est que les 150 000 Palestiniens qui ont pu rester sur leur terre ou qui n'ont pas franchi les frontières et qui sont restés en Israël sont sous gouvernement militaire. Mais si vous voulez, c'est un petit peu un sentiment que bah oui, c'est une situation de guerre, on va pouvoir gérer ça. En 67, Israël va conquérir les 22% restants de la Palestine historique, Cisjordanie et bande de Gaza. À ce moment-là, les travaillistes ne savent pas vraiment quoi faire. Il y a un débat, est-ce qu'on crée un État palestinien, est-ce qu'on n'en crée pas? Et surtout, vous allez avoir une incapacité à gérer cette espèce d'élan, je dirais pas messianique, mais presque, de reconquête de Jérusalem, de prise de tous les territoires ancestrales qui appartenaient aux Juifs, etc. Et donc, il y a l'idée vraiment pour ces travaillistes-là de dire, bon, on va laisser faire, on verra ce qui va se passer. Sauf que la colonisation commence, la prise de ces territoires permet à l'armée d'étendre son pouvoir d'intervention, si bien que rapidement, en fait, les gens au sein de la gauche qui vont commencer à dire « Mais attendez, il faudrait peut-être commencer à négocier un retour des territoires », ils vont se perdre là-dedans. Parce qu'au contraire, la droite, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut coloniser, il faut aller plus loin. Donc la dynamique va s'inverser. Les religieux vont commencer à considérer que la gauche veut rendre ses territoires, mais comment ça? On va quand même pas diviser Jérusalem. On a réussi à l'obtenir en 67, on va pas revenir sur ça. Il y a le tombeau d'Abraham à Hébron, on va quand même pas le rendre aux Arabes, aux Palestiniens. Donc rapidement, la gauche va être complètement perdue là-dedans. Et ce paradoxe que j'expliquais entre juifs et démocratiques va rapidement tourner autour du fait que, non, Israël est d'abord l'État des juifs, et donc dans ce cas-là, les territoires qu'on juge, nous, importants en tant que juifs, on doit les maintenir. Et c'est ça, notamment, que la gauche va complètement perdre pied rapidement.
Et est-ce que le camp de la paix qui émerge après les élections de 1977 et l'arrivée au pouvoir du Likoud, ce camp de la paix prend la place, finalement, du camp de la gauche ?
Ce qui se passe surtout, c'est qu'entre 67 et 77, la gauche sioniste gère Israël. Alors, j'ai dit un petit peu dans une façon de laisser faire, mais en même temps, elle laisse la colonisation s'installer. Elle vote notamment le fait que Jérusalem ne sera pas divisée. Donc, c'est pas vraiment un laisser faire. Il y a quand même aussi au sein de la gauche une espèce d'élan de victoire et de toute puissance. En 77, la droite gagne les élections. Donc forcément, pour les militants de la gauche sioniste, ça devient beaucoup plus facile de critiquer l'État. Quand c'est vos camarades qui sont à la tête de l'État, bon, ben, vous faites attention à vos discours là, c'est beaucoup plus simple. Donc, face à l'arrivée de la droite et du Likoud au pouvoir en Israël, vous allez avoir effectivement d'abord une contestation de l'occupation qui va être de plus en plus forte, qui existait déjà depuis 77, mais qui était relativement petite, faible, avec peu d'influence. Après 77, on a vraiment une vraie dynamique, avec un camp de la paix qui ne cesse de grandir en nombre. Vous avez également de plus en plus de soldats qui commencent à dire qu'ils ne veulent pas intervenir dans les territoires palestiniens, parce qu'ils considèrent qu'il y a un problème moral à aller dans ces territoires-là. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est le jeu au sein de la gauche. En fait, depuis 67, vous aviez des petits groupes militants, très radicaux, souvent non-sionistes, même anti-sionistes parfois, qui considéraient que l'occupation devait être attaquée, critiquée, et que l'État d'Israël devait se retirer de ses territoires, et que les colonies étaient illégales. Et en fait, ces groupes-là, par leur suractivisme, si vous voulez, vont entraîner un autre groupe encore plus important. Et ça, en Israël, c'est classique. Il y a toujours une espèce d'avant-garde qui est au premier plan, qui met du temps à déclencher le reste, mais quand ça se déclenche, ça peut faire de grandes choses. Et le camp de la paix, c'est le cas, notamment. Vous avez un camp de la paix qui va re-questionner la gauche israélienne et qui va surtout lui faire comprendre que si elle veut revenir au pouvoir, il y a un enjeu central, c'est de gérer la question des Palestiniens, de remettre en question cette toute-puissance militaire.
Alors vous vous interrogez dans votre livre, Thomas Vescovis, sur une éventuelle voie de fascisation de l'État d'Israël. Serait-il dans cette voie ? Peut-on même poser la question ?
Alors, moi, je m'interroge surtout par le biais de journalistes, d'hommes politiques israéliens qui posent cette question. C'est-à-dire que moi, j'ai un avis sur la question qui est que oui, il y a une droitisation. Le mot de fascisation peut être retranscrit par rapport d'abord à certains actes qui ont lieu sur la population palestinienne, où il y a des actes de répression permanente et de droits qui ne sont pas respectés. Au sein d'Israël, la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus une tendance à laisser un discours fascisant être totalement audible. Lors des dernières élections, par exemple, Netanyahou, qui est dans une situation qu'on a expliquée assez compliquée, a permis à plusieurs partis d'extrême droite de s'allier afin d'entrer à la Knesset. C'est des partis qui, auparavant, s'ils pouvaient rentrer, c'était avec, je dirais pas un coup de chance, mais une dynamique particulière. Là, il les a unis entre eux parce qu'il a besoin d'allier la Knesset. Dans ces partis-là, il y a par exemple les héritiers de Mir Kahane. Mir Kahane, c'était un rabbin qui s'était fait élire en 84 à la Knesset en Israël et qui, lorsqu'il prenait la parole, la Knesset se vidait quasiment tellement son discours était provocateur, belliqueux, raciste. En 94, son parti a été interdit en Israël pour incitation au terrorisme, c'est pour vous dire à quel point cet homme était complètement fanatique. Eh bien, les héritiers de Mir Kahane actuellement sont dans la Knesset. Ils ont eu 6 députés sous la bannière du parti sioniste religieux. Ces gens-là sont clairement homophobes, ils sont ouvertement racistes, ils prônent l'expulsion des Palestiniens, et le qualificatif de fasciste envers eux est clairement légitime. Donc eux sont entrés à la Knesset. La question centrale, c'est de se dire quel sera leur rôle. S'ils sont cantonnés à une espèce de marge, on pourrait se dire, bon ben, d'accord, finalement, leur influence est faible. Là, en réalité, ils sont dans les négociations, potentiellement pour former un gouvernement avec Netanyahou. Forcément, ces gens-là n'ont aucun intérêt à maintenir la démocratie en Israël.
Merci Thomas Vescovi.
Merci à vous Eric Bataillon.
Votre livre « L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël » est publié dans la collection Cahiers Libres des éditions La Découverte. Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Golshani. On se retrouve avec plaisir samedi prochain. Prenez soin de vous. Dans quelques instants, le journal.
Le débat africain. Le Burkina Faso est depuis 6 ans.